Vous êtes sur RTL.
RTL 8h30.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et Yann Boucherie pour le Tout Info de RTL. Bonjour Yann.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce premier jour du mois de décembre.
Et pour commencer, à la veille de la COP25, une manière toute simple d'apporter sa contribution à l'environnement. Selon une étude britannique, 64 millions d'emails de courtoisie, style merci, bien reçu, bon week-end, seraient envoyés chaque jour au Royaume-Uni et parfaitement inutiles, car destinés à une personne située à portée de voix. Un mail en moins par jour et par adulte représenterait une économie de 16 433 tonnes d'équivalent carbone par an. Cela correspond à plus de 80 000 vols aériens entre Londres et Madrid. Les précisions de Frédéric Bordage, consultant indépendant en sobriété numérique.
On a cru qu'on dématérialisait nos courriers papier, mais derrière chaque email, il y a des octets. Derrière chaque octet, on a des serveurs, du réseau, des ordinateurs sur nos postes de travail. Donc oui, effectivement, on empile des déchets numériques. Et donc l'enjeu numéro un avec les mails, c'est d'éviter d'en envoyer et donc éviter tous les mails inutiles. On peut y parvenir en se donnant, par exemple, 3 temps dans la journée où on a le droit, on s'autorise le fait de pouvoir écrire et lire des mails. Et comme on va concentrer les moments dans la journée où on traite nos mails, alors de ce fait-là, on va à la fois les traiter plus vite, on va gagner du temps et de la charge mentale, mais en plus, on va en envoyer moins, parce que tous les petits mails inutiles seront passés à la trappe entre-temps.
Frédéric Bordage, joint pour RTL par Marion Ferrer. On le rappelle, la COP25 s'ouvre demain à Madrid. La France sera représentée par Édouard Philippe.
Bien sûr, COP25 dont attendent beaucoup les ONG, les associations. On en parlera dans un quart d'heure avec l'invité de RTL Matin Week-end. C'est Lucille Dufour, la porte-parole du RAC, l'association Réseau Action Climat. Elle prend la parole à 9h10.
Édouard Philippe qui convoque son gouvernement aujourd'hui à Matignon, de 16h à 22h, pour accorder les violons à la veille d'une semaine décisive, marquée par la grève de jeudi sur la réforme des retraites. Un système qu'il faut effectivement modifier pour 76% des Français, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Mais 64% des personnes interrogées ne font pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement pour mener à bien ce changement. L'exécutif, selon lequel les régimes spéciaux coûtent chaque année 9 milliards d'euros aux finances publiques.
Et Yann, en Grande-Bretagne, l'heure est à la remise en cause à propos des libérations anticipées.
Oui, le Premier ministre s'est engagé à revoir le système au lendemain de l'attentat qui a fait 2 morts vendredi avant que l'assaillant soit abattu par la police. Ousmane Khan, c'est son nom, condamné à 16 ans pour terrorisme en 2012, bénéficiait d'une mesure de liberté conditionnelle. Il participait même avant-hier à une conférence sur la réhabilitation des prisonniers dans un bâtiment du London Bridge à l'intérieur duquel l'attaque a commencé. La dissimulation de sa radicalisation interpelle outre-Manche sur la manière dont ces prisonniers sont suivis. Ismaël Lissaus est directeur du Salam Project qui traite justement de ce dossier.
En prison, il aurait dû être soumis à un programme complet et cohérent mené par des spécialistes de la déradicalisation et de l'anti-extrémisme. Pas un chaplain classique ou un gardien de prison. Quand il a été libéré, il aurait théoriquement dû être sous surveillance et prendre part à un autre programme de déradicalisation, spécialement pour les anciens prisonniers. Mais avant même d'envisager sa libération conditionnelle, il aurait dû être évalué par un véritable expert. Parce que si c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment, il saura poser les bonnes questions. Mais si c'est une personne qui vient d'être formée au processus, elle n'aura pas les compétences pour faire les vérifications nécessaires. Elle peut être facilement trompée et induite en erreur.
Et propos recueillis pour RTL par Marie Billon. En France, un peu plus de 300 détenus radicalisés sont susceptibles de sortir de prison dans les 2 prochaines années.
Et puis un phénomène en recrudescence à présent dans les campagnes, c'est celui du vol de GPS agricole.
Oui, une filière a été démantelée jusqu'en Lituanie grâce à la collaboration des polices européennes. On ne le sait pas forcément, mais ces dispositifs de géolocalisation installés sur les tracteurs sont extrêmement sophistiqués. Ils se vendent ainsi entre 8 000 et 15 000 euros l'unité. De quoi susciter la convoitise des malfrats, Alice Moreno.
Oui, le préjudice subi par les exploitants agricoles est faramineux. 6 millions d'euros au total. Cela correspond à l'ensemble des GPS volés sur le territoire national entre 2015 et 2018, avec une augmentation exponentielle du nombre de vols au fil des ans. Quelques dizaines de larcins début 2015, plus d'une centaine en 2018. Le Grand Est, les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire sont les 3 régions les plus touchées par le phénomène. Pour tenter de démanteler les les réseaux de receleurs, la gendarmerie a mis en place une cellule d'enquête nationale spécialement dédiée en janvier dernier. Une filière de recel lituanienne a été identifiée et particulièrement 4 individus. Tous ont été interpellés mardi dernier en Lituanie. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans 47 vols de GPS agricoles en 2018 et 2019 pour un préjudice de 575 000 euros.
Les précisions d'Alice Moreno pour RTL. Avec des GPS ou pas, des camions et des engins de chantier bloquent toujours 4 dépôts pétroliers de l'Ouest. Verne-sur-Sèche près de Rennes, Brest-Lorient et Le Mans. Les 4 sites sont touchés au point que certaines stations service était à sec, notamment dans le Finistère. Pour fluidifier l'approvisionnement des pompes, eh bien, le gouvernement a pris un arrêté qui autorise jusqu'à mercredi le dépassement du temps de conduite des conducteurs dans les transports d'hydrocarbures.
Le football n'est pas de chance au tirage hein, pour l'équipe de France à l'Euro 2020.
Les Bleus affronteront l'Allemagne, le Portugal et un barragiste que l'on ne connaît pas encore. Ils affronteront la Mannschaft à Munich le 16 juin, un moment forcément particulier pour Benjamin Pavard, le Français du Bayern.
Oui, c'est sûr. En plus, j'avais dit à quelques amis que j'aurais aimé voilà, rencontrer l'Allemagne, surtout à Munich. Donc voilà, ça va être un gros match. Après, il ne faut pas se poser de questions particulières. On a gagné la Coupe du Monde. Maintenant, l'objectif de gagner l'Euro. Donc ça va commencer directement par un gros match contre l'Allemagne.
Et la France rencontrera ses 2 autres adversaires à Budapest. Sauf changement, les Bleus auront Clairefontaine comme camp de base pendant toute la compétition. La Ligue 1 est la suite de la 15e journée. Victoire de Lyon à Strasbourg 2-1, de Montpellier sur Amiens 4-2, de Nice contre Angers 3-1, de Lille face à Dijon 1-0, un but partout pour Nîmes, Metz et Reims-Bordeaux. 3 matchs encore au programme aujourd'hui, dont Monaco-PSG à 21h à suivre sur RTL dans Soir de Ligue 1. Et puis un résultat incroyable aux Pays-Bas chez les jeunes, les U12 de l'Ajax Amsterdam se sont imposés hier contre Maastricht, 50-1. C'est pas mal. Hein.
Incroyable.
En rugby, le leader Lyon a chuté hier à Montpellier 33-8. Succès de Bordeaux-Bègle au Racing 34-30. Et puis le handball, c'est tout chaud. Deuxième match des Françaises au championnat du monde au Japon. Les tricolores avaient perdu contre la Corée. Elles affrontaient le Brésil. Match nul, 19 partout. C'est une nouvelle contre-performance pour les filles d'Olivier Cromwell.
Rendez-vous incontournable à destination des fans de Johnny Hallyday aujourd'hui.
Eh hein. Oui, en ce dimanche 1er décembre, presque 2 ans après sa mort, eh bien, l'Olympia devient un musée dédié à l'idole des jeunes. Un film inédit sera notamment diffusé en présence de Laetitia Hallyday. Son nouveau manager, Michel Yankelevitz, s'est confié au micro RTL d'Anthony Martin.
J'ai visionné beaucoup d'heures de Johnny chantant à l'Olympia. J'ai trouvé des trésors. Donc on a fait un film, mais c'est Johnny qui est le maître de cérémonie, qui raconte son histoire avec l'Olympia. Et en deuxième partie, on projettera des duos inédits qu'on avait enregistrés pendant l'été 2000. Des choses exceptionnelles comme France Gall qui a fait sa dernière apparition sur scène, enfin etc. Et l'Olympia va nous ouvrir la galerie des billards et qui est unique. Et la loge de Johnny qu'on va reconstituer. C'est Johnny à l'Olympia. C'est la salle qu'il représente le plus. 266 concerts.
Michael Yankelevitz au micro RTL d'Anthony Martin. Rendez-vous donc incontournable pour les fans de Monsieur Johnny Hallyday.
On veut donner la faim, la soif, puis un festin.
Merci Yann Boucherie, toute info de RTL et toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, rtl.fr. Comme promis, on prend la direction d'Angoulême, des Halles, en particulier 25e édition des Gastronomades. On va rejoindre sur place ceux qui adorent la vie et qui sont des épicuriens. Loana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange, à tout de suite.
8h38.
RTL Matin.
Vous le savez, il y a plus de 50 ans, Lino Ventura créait Personnages pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées et à leurs familles. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, c'est plus que jamais l'occasion de répondre à son appel. Alors faites place dans vos cœurs, dans la société, faites place à ceux qui ont besoin qu'on les accueille dans des maisons de vie où ils